Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Bonjour, Jeannette Franklin, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Native du Yorkshire, directrice du French American Center de Montpellier et de l'Institut de formation à l'anglais, vous incarnez l'attractivité de Montpellier et son ambition de rayonnement international. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Vous illustrez aussi la croissance démographique de la ville pendant la trentaine d'années écoulées. À votre arrivée, en 1991, Montpellier comptait un peu plus de 200 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a près de 300 000. Vous avez donc été le témoin et probablement un des acteurs de cette trajectoire. Alors, racontez-nous votre Montpellier. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a conduit à Montpellier à l'origine là ? Pourquoi avez-vous atterri ici ?
Je pense que comme beaucoup de jeunes personnes, c'était mes études qui m'ont emmenée ici. Donc, j'ai fait des études de lettres françaises à l'université de Liverpool et on avait ce choix d'une année à l'étranger et d'accord. J'ai choisi Montpellier.
Et pourquoi Montpellier, pourquoi pas Bordeaux, Paris ou Strasbourg?
J'ai honte de dire que c'est un petit peu au pif.
Ouais, c'était le hasard de la vie.
Et en plus, c'était avec un copain que lui, il n'a pas eu son année, donc je me suis retrouvée toute seule ici au final. Mais c'était une heureuse coïncidence, on peut dire.
Alors, vous découvrez Montpellier. Quels souvenirs gardez-vous, là, plus de 30 ans après, de vos premières impressions, là, de ce qui vous a frappé? Quand on débarque dans une ville, il y a toujours un petit choc, hein, la distinguo avec ce qu'on connaît par ailleurs. Et qu'est-ce que c'était Montpellier pour vous ?
Alors, c'est vrai que la première chose qui m'est arrivée, c'est que toutes mes économies sont parties dans la caution et les trois mois de loyer ou je ne sais pas quoi. C'était avec monsieur et madame Claire. C'était à rue Alexandre Cabanel. Ouais. Donc, du coup, au début, j'étais un choc de ce côté-là parce que ça ne marchait pas exactement comme ça chez nous. Mais après ça, aussi, le fait d'être dans une sorte de labyrinthe où je me perdais sans cesse.
Oui, le centre de la ville, notamment.
Oui, c'était dans le centre historique. Donc, ces premiers jours, mais j'ai vite rencontré des personnes, plein de personnes. Une partie que je connais encore, une partie que j'ai perdue de vue. Et c'était grâce à ça que, voilà, que je me suis accrochée un petit peu. Je pense aussi que vraiment les souvenirs que j'ai, c'est très avec l'essence, le soleil, la fraîcheur des petites rues quand on avait chaud, quand on marchait, le goût des tomates, parce que c'était un goût que je n'avais jamais goûté, le goût des tartes au citron. Il y avait des petites tartes avec, vous allez me trouver gourmande, mais il y avait des petites tartes aux abricots. C'était des choses tellement, c'était tellement plein de qualité que je n'avais pas rencontré en fait.
Et donc ça vous a donné envie de rester pour le coup. Alors, en tout cas, ça a été un des éléments d'un séjour qui, sauf erreur de ma part, n'a pas cessé de se poursuivre.
Ah, oui, je suis retournée quand même en Angleterre pour finir ma diplôme et j'ai travaillé aussi à Londres. Mais c'était vraiment ça, c'était la qualité de la lumière, la qualité de la vie, la qualité des aliments. Ça m'a tellement impressionnée à cet âge de 20 ans, finalement, que je devais revenir.
Et alors, est-ce qu'il y a des lieux plus particulièrement marquants, à la fois dans cette découverte et dans vos premières années à Montpellier ? Pas nécessairement les lieux les plus touristiques dont on trouve sur les cartes postales, mais en tout cas, quels sont les lieux fétiches que vous avez en tête?
Je pense que j'ai en tête beaucoup la lumière, en fait. La lumière, aller à la plage, hein, pouvoir aller prendre, à l'époque c'était sûrement le bus, hein, ou dans une voiture avec des copains, et arriver à Palavas et prendre un café à la mer, comme ça, le mélange ville et aussi
la mer,
la Méditerranée, la mer. Mais aussi, quand je pense à Montpellier jusqu'à aujourd'hui, avec tous les souvenirs d'avoir élevé mes enfants aussi ici, c'est les places, c'est les différentes places.
Oui.
Donc,
alors, mais vous avez une préférée parmi ces différentes places là, qui caractérisent, je dirais, l'espace urbain, notamment du centre historique. Vous avez votre petite place chouchou.
Beaucoup de bons souvenirs hein, des places. Une, c'est bien sûr l'esplanade. À l'époque, il y avait des poneys. Donc,
ah oui, en effet.
J'avais des enfants en bas âge. C'était vraiment cette place-là qu'on aimait beaucoup, mais aussi, bien sûr, au départ, la place de la Comédie, prendre un café dans la place de la Comédie pendant 10 heures, regarder le monde passer,
ouais.
Il n'y a rien de tel. J'aime aussi les petites places, un peu, mes enfants étaient scolarisés en ville, donc on mangeait à la place Jean Jaurès avec une copine, boire un petit rosé pendant que les enfants jouaient dans la place, c'était des choses magiques.
D'accord. D'accord. Alors, cette magie que vous décrivez bien, elle s'est donc perpétuée, elle s'est prolongée au fil des années. Alors, c'est peut-être pour des raisons personnelles, professionnelles ou familiales qui vous ont conduit à rester ici, mais il y a autre chose. Il y a une espèce d'attachement à Montpellier qui s'est perpétué.
Mais oui, j'ai passé plus de ma vie ici qu'en Angleterre maintenant. Parce que ça fait plus de 30 ans que je vis là et que je suis partie de Yorkshire à 18 ans. Donc, bon, c'est les moments vécus, c'est les années passées, c'est les moments partagés. Mais aussi, Montpellier, on ne s'ennuie pas à Montpellier. Montpellier a, je trouve que comparé à d'autres villes, même chez moi, elle a énormément changé. Vous avez évoqué la population, mais je pense aussi c'est l'architecture, c'est les différentes zones qui se sont développées. C'est tellement agréable de voir que les choses bougent et de voir une ville grandir avec différents des nouveautés.
Notamment Antigone, donc dans la construction.
Au départ, c'était Antigone, je me rappelle.
En 82, sauf erreur,
ouais.
Qui était un terrain désert anciennement occupé par l'armée. Ça aussi, ça fait partie de vos découvertes, comme beaucoup de Montpellierens qui ont découvert ce qui a été fait par l'architecte Ricardo Bofill, d'ailleurs, avec des jugements contrastés. Mais voilà, donc du coup, vous avez continué, je dirais, à observer, pas simplement la ville, le patrimoine historique, mais également la ville dans ses mutations, dans les changements qu'elle a connus. Ça vous a donc intéressé?
Oui, je pense que quand on... Au départ, je trouvais que je croisais beaucoup les mêmes gens que je connaissais, qu'aujourd'hui, c'est vraiment... On n'a pas du tout cette impression-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'endroits, de zones, de chemins à découvrir. Et aussi, des choses ont été bien réfléchies, bien construites. Je pense notamment à Port-Marianne, par exemple. J'habite pas très loin. Et avec le tramway, ça nous a... On peut comparer cette ville à beaucoup de villes. Ça nous a vraiment transformé la vie. Aujourd'hui, par rapport au vélo, tout ça, j'espère qu'il y aura des changements qui vont nous impacter beaucoup aussi, parce qu'il reste à faire des choses. Ouais. Oui, oui.
Il faut être patient.
Oui.
D'accord. Et alors, quand vous recevez des amis ou des parents qui ne connaissent pas Montpellier, j'imagine que ça arrive. Donc, en plus, quand on habite dans le sud, on est facilement une destination pour les gens qui partent en vacances. Qu'est-ce que vous leur dites de Montpellier? Comment vous présentez la ville
dis souvent que c'est la plus... Je ne sais même pas si c'est toujours vrai, mais je dis que la place de la Comédie, c'est la plus grande place d'Europe. Visiter la cathédrale, parler de son université, qui est la première université d'Europe, je pense aussi, ou première fac de médecine. Je pense que c'est très, très bien d'aller sur la hauteur, là où il y a la place du Pérou,
oui.
Et aller voir. Et aussi par-dessus du Corum, aussi, aller voir. Parce que cette hauteur, c'est ce qui fait que Montpellier, qu'on parle de Montpellier partout. D'ailleurs, dans ma ville, qui est une petite ville du nord du Yorkshire, il y a tout un quartier Montpellier.
Ah
partout
oui.
où on va, d'ailleurs. Vous
d'accord.
savez, il y a des quartiers Montpellier.
Le quartier s'appelle Montpellier?
Ah oui, oui.
D'accord.
Il y a des quartiers Montpellier un peu partout. À Bath, c'est pareil. Il y a toujours un quartier Montpellier. Et c'est parce que Montpellier, dans le Moyen-Âge, c'était un endroit où on pouvait échapper à la maladie et être en hauteur, justement, pour pouvoir être en sécurité et se reposer un temps. Et donc, cette réputation est ancrée, même si à l'époque, quand je suis venue ici, on connaissait beaucoup plus la Côte d'Azur que Montpellier. Les gens, ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient à un moment l'équipe de foot, mais ils ne connaissaient pas trop Montpellier. Maintenant, ça a vraiment changé. tout le monde connaît Montpellier tout de suite. Quand je parle à des amis et de la famille, et justement, c'est rare d'avoir quelqu'un qui me rend visite qui n'a jamais visité la ville.
Ah, d'accord, oui.
Donc, c'est quelque chose a changé pour
le... Donc, alors, les gens savent notamment que Montpellier n'est pas tout à fait au bord de la mer, parce qu'il y a une image récurrente de la ville, comme si on pouvait se baigner en bas de la place de la Comédie. Ce n'est pas tout à fait le cas, donc j'imagine que vous avez été amené à rectifier, je dirais, cette image un petit peu erronée, quoi, un petit fausse de Montpellier, pas tout à fait en bord de mer, mais pas très loin tout de même. Quoi.
Faisable en vélo.
Voilà.
Donc, c'est ça qui compte pour les gens qui sont là. Ma famille, en tout cas, ce qui compte pour eux, c'est de pouvoir faire leur balade en vélo jusqu'à la mer. Jusqu'à ça, la c'est mer. Encore plus agréable que si c'était juste à côté, finalement.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'à à contrario des éléments de ce qu'est Montpellier, peut-être des clichés, des idées reçues qui ne correspondent pas à la réalité, sur lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Vous savez qu'il y a un imaginaire sur les lieux que nous fréquentons, à fortiori les villes, parce que les villes, c'est un lieu de vie, d'échange, peut-être de difficultés, de commerce, d'activités culturelles et autres. Est-ce qu'à contrario, il y a des idées reçues sur Montpellier qui vous paraissent toutes un peu inadéquates, un peu disproportionnées?
Juste un peu difficile à répondre parce que je ne sais pas quelles sont ces idées reçues, mais ce que je peux dire, c'est que je côtoie depuis bien sûr beaucoup d'années dans notre centre culturel aux Arceaux beaucoup de personnes qui sont nouvellement arrivées et qui cherchent à faire des activités culturelles pour rencontrer des gens.
Oui.
Et je pense, ce n'est pas une idée reçue, mais quelque chose qui revient et qui revient et qui revient, que ce n'est pas forcément facile de se faire des amis, de rencontrer de nouvelles personnes à Montpellier.
Oui.
Donc, on a différentes théories de pourquoi, mais ça peut être difficile, en tant que nouveau venu, de se faire
des amis
à Montpellier et de s'intégrer.
Oui.
Donc, ça, c'est différent.
Vous le constatez, et
cette
difficulté, vous la constatez encore. Parce que, pour le dire à ma manière, je pense qu'il y a une idée un peu d'un midi de la France où tout est simple, très convivial, donc... Et en fait, je dirais, la rencontre, en tant soit peu réelle, effective, n'est pas toujours là, quoi. Hein. Donc, c'est ça que vous constatez.
Oui, moi par exemple, je peux comparer aussi là où j'habite depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, depuis 25 ans, et là où ma fille habite maintenant en Angleterre, où mes parents habitent, les voisins sont beaucoup, beaucoup plus...
Proche,
à partager. Ici, avec les voisins, on ne va pas à l'intérieur de leur maison. On garde vraiment une distance, une sorte de pudeur. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est dommage. Donc, ça peut contribuer à cette... Je pense que c'est une sorte de discrétion aussi. Ça peut être bien d'un côté, mais ça peut contribuer à cette problématique de comment s'ancrer dans la vie et ne pas se sentir seul. Et il y a différentes explications, mais en tant qu'association, on est fiers de faire ce travail-là et de créer des liens sociaux pour les gens.
Donc, une espèce, on va dire comme ça, de réserve. C'est une manière positive de le dire. On pourrait dire que c'est un certain manque d'hospitalité, mais passons. Et donc, du coup, on y vient. L'activité du French American Center, c'est précisément ça. Vous allez nous dire quelles sont ces différentes activités, mais l'objet central, c'est ça, de créer un espace de rencontre, d'échange, de convivialité, pour le coup.
Tout à fait, oui. Aussi, bien sûr, c'est lié à l'acquisition linguistique, c'est lié à aller chercher au-delà des barrières, essayer de baisser les barrières pour aller à la rencontre de l'autre. Précisément autour de la culture anglophone en général, que ce soit américain, anglais ou autre, quelque part comme prétexte pour créer de l'événement et créer le contact entre nous, tout ça dans un esprit vraiment de se sentir, d'être dans un environnement très bienveillant où on n'est pas jugé, où on s'intéresse l'un à l'autre et on trouve des moments de partage comme ça.
Y compris avec des francophones.
Oui.
Sans qu'ils soient stigmatisés parce qu'ils ont un mauvais anglais.
Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup de francophones qui veulent pratiquer l'anglais et on n'a pas la notion de mauvais anglais. Mmh. On a plus la notion d'amitié.
D'accord. Du coup, voilà, cette... il n'y a pas de sanction comme on peut l'avoir quand on suit une formation académique ou quand on est au lycée. Il n'y a pas de note à la sortie. Mais il y a cette ouverture d'esprit qui vous paraît bien caractériser le French American Center.
Oui, vraiment. Je pense que ça fait ça. C'est... Alors, ce qui caractérise aussi le French American Center, ce sont les personnes, les jeunes qui sont venus depuis maintenant, donc depuis plus de 32 ans. Être bénévole, participer à la vie de l'association ou bien participer à des programmes d'échange et qui sont repartis chez eux. J'ai beaucoup de contacts comme ça avec ces jeunes-là.
Oui, il y a une espèce de diaspora des anciens
des anciens du French American Center et qui ont gardé ce souvenir de Montpellier et cet amour de Montpellier et qui l'ont transmis à leurs enfants. Et
donc, ils reviennent parfois.
Ah oui, ils reviennent et ils en parlent jusqu'à aujourd'hui et c'est resté un très bon souvenir.
D'accord. Alors, on va quand même balayer à grands traits vos différentes activités. Si vous pouviez nous indiquer quelles sont les offres principales du programme proposé par le French American Center.
On propose des soirées où on va avoir une discussion, manifestation culturelle, débat, beaucoup de soirées autour de jeux, différents jeux pour pratiquer l'anglais. On propose aussi des programmes d'échange pour des étudiants qui peuvent partir entre 3 mois et 1 an, même 2 ans aux États-Unis.
Donc des jeunes Français.
Oui, qui peuvent
qui se préparent à un séjour. D'accord.
C'est ça. Et on propose aussi un thé tous les mercredis après-midi. Une discussion, en anglais, qui perdure depuis beaucoup d'années.
Donc, c'est un rendez-vous informel, je dirais. Sans,
oui. Alors, c'est... Les personnes qui arrivent vont boire le thé et manger un gâteau et ils vont parler en anglais ou en français si on sont anglophones. Donc, on propose aussi un programme d'échange réciproque linguistique où vous allez donc aider quelqu'un à améliorer leur français et en contrepartie, ils vont vous aider à améliorer votre anglais. Donc, ces programmes-là sont tous proposés toute l'année.
D'accord. Et est-ce que les personnes qui fréquentent le centre, on peut changer comme caractéristiques, comme curiosité, est-ce que c'est pas tout, l'attente de leur part n'est pas tout à fait la même de ce qu'elle était autrefois, ou il y a une espèce de continuité que la perpétuation du French American Center a permise.
Alors la ville a beaucoup changé quand on a démarré. On était les premiers à parler de Halloween, par exemple.
Ah oui.
Après, on a traversé une grande période où tout le monde proposait des choses pour Halloween. Mais notre légendaire, je dirais, soirée de Halloween, attire beaucoup, beaucoup d'enfants chaque année. Parce qu'on va faire beaucoup d'activités traditionnelles et authentiques de cette fête. Donc,
arrête sur le mot authentique, parce qu'il me venait en tête. Par rapport à l'offre commerciale sur Halloween que vous laissez entendre, qui a multiplié, je dirais, les occasions de célébrer cette fête-là dans les familles françaises. Ce que vous proposez recherche, je dirais, cet aspect plus familial, plus simple,
plus sympa, jeux et des activités liées à la période de l'année, à l'automne, qui sont transmis un peu de génération en génération, que même moi, petite, des choses qu'on faisait. Donc, des choses, très simples, qui sont typiques de cette fête. Je dirais aussi que ce qui a changé, c'est vrai que Montpellier a changé. Il y a différentes offres pour faire des choses qui ont fait que les gens avaient une offre tellement étendue que tout d'un coup, ils ne savaient pas un peu où donner la tête. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec le Covid, tout le monde est resté chez eux et qu'après le Covid, là, tout le monde revient et ils cherchent cette rencontre et cette simplicité. Et on ressent vraiment qu'ils sont à la recherche de cet échange en tête à tête, être à proximité des gens, et ne pas être seul et vivre ce moment partagé.
D'accord. Donc, on comprend bien qu'il ne s'agit pas simplement d'améliorer le niveau en anglais des gens qui fréquentent le centre, mais également de proposer la rencontre, l'échange, la convivialité, c'est ça qui vous paraît expliquer le succès, j'imagine, on peut dire ça, en tout cas le fait que le French American Center se perpétue, 32 ans d'existence, c'est ça. Donc, toutes les associations ne peuvent pas afficher ce chiffre-là, c'est parfois compliqué. Et autour de vous, donc, il y a un certain nombre de bénévoles qui jouent un rôle actif dans la marche de l'association. Vous pouvez nous en dire un mot, là, de l'équipe, hein?
Oui, ça, alors, depuis donc, 1991, on est aussi un point de chute et un endroit pour des anglophones qui sont dans la ville et qui cherchent à s'investir pour connaître des gens et pour donner de leur temps pour justement faire vivre l'association et ses activités. Et je pense que c'est quelque chose de très... je pense que donner comme ça, sans forcément vouloir quelque chose en retour,
oui.
C'est ça le rôle de l'association, c'est de créer ces opportunités-là. Et c'est quelque chose de très, très enrichissant. Et puis aussi, ça joue ce rôle parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur place et ça les aide bien à passer le cap. Et d'autres personnes, par exemple, qui sont retraitées, qui cherchent à partager leur talent et leur temps, leur patience. Donc on est là aussi pour ça, nous, les associations en général.
Alors, est-ce que ça signifie qu'on n'avait pas de difficultés pour attirer des bénévoles et pour qu'il y en a qui partent, j'imagine, ou qui font autre chose? Parce qu'il y a des associations parfois un peu de mal quoi, à renouveler bon, ceux qui consacrent une part de leur temps et de leur capacité, ouais, voire de leur talent, à l'association. Vous n'avez pas cette difficulté. Là, le renouvellement de l'équipe de bénévoles se fait dans de bonnes conditions.
Il faut beaucoup d'énergie pour continuer à animer tout ça. Il faut, faut pas se mentir. Il faut retrouver encore une fois la force de le faire. Mais bon, je pense que quand on voit voilà, le moment ou l'événement, que ça intéresse des gens, qu'il y a des moments partagés, c'est ça la récompense. Mais ça demande beaucoup d'énergie.
C'est ça. Bon, ça, c'est le fait de toutes les associations et d'un travail qu'on fait à titre bénévole, gracieux. Et donc, il faut donner de soi, il faut donner du sien.
Oui, et il faut recommencer éternellement.
D'accord.
Bon, c'est ça, après 32 ans, on répète des choses.
Alors, est-ce que vous avez des idées en tête, d'autres activités, ou est-ce que vous imaginez, avec ce qui vous entoure, une évolution des activités, bon, des compléments, une autre manière d'organiser les choses pour, je dirais, répondre au mieux aux attentes telles que vous les percevez?
Je suis vraiment à l'écoute parce que je pense que maintenant, je dirais pas que je n'ai plus d'idées, mais ma source d'inspiration, ça va être les gens que je rencontre.
Oui.
Donc, si je rencontre un écrivain, un poète, une personne... on a eu plein d'intervenants très, très intéressants. On a fait des choses. On a facilité et animé des échanges et des rencontres sur des thèmes très intéressants. Donc, en fait, c'est plus ça qui va... Si je rencontre quelqu'un qui fabrique des bougies, des bijoux, des bougies, tout ce que vous voulez, je vais les inviter à présenter leur travail. Quelqu'un qui a publié quelque chose, je vais l'inviter à faire une présentation. Donc, c'est comme ça.
Donc, il y a cette diversité.
Et oui.
Cette, voilà. Parmi les thèmes bon, qui ont marqué, ou en tout cas que vous avez trouvé plus réussis que d'autres, hein, peut-être quelques exemples de moments vous avez considéré que le French American Center jouait bien son rôle de mise en contact entre des personnes qui ont un talent, des idées ou une activité digne d'intérêt que le cadre...
Je dirais que l'expo qu'on a fait sur le skateboard, ça a été une de mes plus belles réussites avec la Maison des Relations Internationales et un jeune architecte, Zacharia Vial, qui a mis en scène une très jolie expo photo. Donc, on a fait 3 jours d'événements et il y avait des dizaines et des dizaines de skateurs, de jeunes skateurs qui ne connaissaient pas notre association, y compris donc notre public habituel. Donc, c'était une belle échange.
D'accord. Et du coup, j'imagine que cette initiative, c'est une manière, comment dire, de situer la place du skate dans la ville. C'est un des sujets que cette émission... essayer de traiter par différentes voies là, la place du skate dans la ville de Montpellier. Est-ce qu'elle est adaptée aux attentes? Est-ce que les espaces dévolus au skate sont bien aménagés, suffisamment nombreux pour que...
On a traité un petit peu de ce sujet-là. On a fait plutôt le lien entre les racines historiques du skate qui sont américains, avec le fait que... ça véhicule toute une culture qui est très présente dans la ville de Montpellier. Et voilà, que c'est quelque chose de typique aussi maintenant aujourd'hui de Montpellier.
Oui, parce que c'est une des formes de vie urbaine, je dirais, oui. Et bon, principalement avec des jeunes qui marquent la ville, qui contribuent à la caractériser, là aussi, pour reprendre
ça, oui.
Notre échange là, du début. Là, oui.
Tout à fait.
Donc du coup, bon, après, bon, il y a des manifestations internationales dévolues à ces différents types de sports, comme vous savez. Alors, ça fait partie des choses que vous avez imaginées et qui étaient peut-être en dehors, je dirais, du cadre traditionnel du centre.
Non, pas forcément, parce qu'on organise différentes expos depuis beaucoup, beaucoup d'années avec des artistes américains, anglophones en général. Donc, on en a organisé beaucoup. Et donc, c'était le côté artistique. Mais aussi, on est toujours en train de proposer quelque chose avec un lien quelconque, un lien avec le monde anglophone. On propose tout ça à nos adhérents. On a eu des invités médecins, des invités écrivains, des invités historiens qui viennent animer des rencontres avec nos adhérents sur différents sujets. Et comme je disais il y a quelques minutes, c'est une occasion de lancer le débat, de discuter, de s'enrichir et de passer un moment ensemble aussi.
Alors, est-ce que la mort d'Elisabeth II a une incidence sur l'activité du centre, là, c'est il y a quelques jours, ou pas vraiment?
Non, je ne dirais pas qu'il y avait une incidence. On avait quand même un petit peu de nostalgie, mais voilà.
Sans plus, oui.
Voilà, juste un peu de nostalgie.
D'accord. Alors, une ou deux questions comme ça pour terminer en bouclant la boucle. Si quelqu'un vous dit qu'il a du mal à parler anglais, que ça ne lui plaît pas, qu'il garde des souvenirs affreux de l'apprentissage de l'anglais au lycée, qu'est-ce que vous lui dites, hein?
Mais je lui dis que, en général, les Français ont fait beaucoup d'apprentissage conscient du langage et ont appris la théorie, mais que peut-être ils n'ont pas encore eu beaucoup d'occasions
de pratiquer
et de trouver leurs mots. Et que cette partie-là, donc d'apprendre en faisant ou d'apprendre en pratiquant, ça va déclencher vraiment beaucoup de réussite chez les Français, parce que dès qu'ils commencent à parler dans un environnement bienveillant et où ils peuvent expérimenter, ils vont tout de suite faire beaucoup de progrès parce qu'ils ont déjà assimilé des choses sans le savoir.
Donc il y a un déblocage qui se produit.
Exactement.
C'est ça. Alors, dernière question. Jeannette Franklin, est-ce qu'on peut parler correctement l'anglais avec l'accent du Midi?
Ah oui, c'est le meilleur accent.
Alors, l'accent bon, du Midi, bon, tout le monde ne l'a pas, parce que bon, le brassage des populations qu'a connu Montpellier fait que l'accent du Midi n'est pas nécessairement généralisé, mais c'est possible, quoi, je veux dire. Il n'y a pas d'obstacle, que je dirais, théorique ou académique, qui interdirait quelqu'un à un accent du Midi prononcé d'être un anglophone tout à fait correct.
Ah, pas du tout. Je pense que la prononciation, bon, c'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est pas un frein vraiment. C'est bien d'avoir son accent. Vous savez, je porte le mien fièrement. Donc, c'est pas un frein du tout à la compréhension à l'oral que d'avoir de prononcer à la française quelques mots ou avec l'accent de Montpellier, encore mieux.
Très bien. Ben, je vous remercie de ces encouragements, madame. Et donc, à bientôt peut-être, en tout cas. Bon, alors, rappelez-moi l'adresse, c'est rue Saint-Louis.
4
bon,
rue Saint-Louis.
Voilà, bon, les gens trouveront sur Internet votre téléphone et les renseignements dans le blog qui présente l'ensemble des activités. Merci à vous.
Avec plaisir.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.